septembre 2000.
Passe de la géographie ou pas, moi ça m'est égal. Car c'est de la géographie. Eh bien, la Dordogne est le plus important et le plus long des affluents de nos fleuves. Elle a près de 500 km de long. 490 signalés exactement. Comment l'a-t-on mesuré? Je n'en sais rien. Bon, et sur ce parcours, il se trouve que, partant du centre de la France, ou presque, puisque elle naît au pied du Chancy, le massif du Chancy, mais elle n'a pas de source. Beaucoup de cours d'eau ont une source, qui est le lieu où elle jaillit, l'eau jaillit de terre et continue à ruisseler. Elle n'en a pas, parce que elle est le rassemblement qui se fait au bas du puits de Chancy, du vrai pic. Je ne peux pas vous préciser l'altitude exacte, mais l'altitude du bas, la crête, c'est plus, beaucoup plus haut, parce que aux périodes de pluie ou de fonte de neige, les ruissellements viennent s'accumuler au fond d'un vallon, et au fond de ce vallon, 7 ou 8 ruissellements qui sont venus forment un petit ruisseau qui va partir. Et là, il y a 2 ou 3 maisons, dont une, c'est un restaurant, et il y a un peu plus haut, à une altitude de 150 mètres à peu près, de ce point-là, un monte-charge pour arriver au sommet sur les crêtes. Et alors, là, la Dordogne est considérée comme étant le début de ce groupement de cet ruissellement. Et alors, je l'ai vu là. On peut la sauter d'un côté à l'autre, il n'y a rien à faire. Et je l'ai pratiquement, à peu de choses près, suivi sur tout son parcours. Parce que là, et j'y suis allé, et j'étais avec un ami, nous sommes allés voir, nous avons fait un parcours et nous avons suivi. C'était pas facile, parce qu'en auto, on ne suit pas un ruisseau, mais on le retrouvait à 300 ou 400 mètres ou à 2 km plus bas, mais au fur et à mesure. Et alors, au fur et à mesure qu'elle roule, elle va baisser d'altitude, bien sûr, et recevoir d'autres petits cours d'eau qui viennent. Autrement dit, c'est un rassemblement d'une foule de petits ruisselets qui finissent peu à peu par former une masse d'eau. Et un phénomène qui est un phénomène, alors, non pas de géographie générale, mais qui est un phénomène, je dirais, de l'érodation du terrain, il y a le fait, c'est que tous les talus que ça peut faire ou d'autres, c'est de l'Auvergne. Il y a des roches. Les roches, les rochers, c'est... Mais, quelle que soit la nature des roches, avec le temps, les changements de température été-hiver, les changements d'hydrologie, etc., font que, au bout de 15, 20, 100 ans, 500 ans, des coins de rochers s'éboulent, et tout le long d'un petit filet d'eau, il va y avoir des endroits où l'eau va décortiquer les rochers, et alors ça va former des petits blocs de pierre ou des gros blocs, et là, ça va se modifier. Ces blocs de pierre vont s'arrondir et ils seront amenés. De telle sorte que, pour avoir une idée assez amusante de ça, il suffit d'aller au bord de la Dordogne maintenant et on va trouver des blocs de pierre, des bouts de pierre, des galets ou des choses rondes, de diverses natures de roches et qui viennent de 150 km, mais qui ont mis combien de siècles?
Et, oui.
Et alors, l'érosion a fait que tout le bouleversement géographique d'un pays se manifeste aussi par l'examen des roches. Oui. Et là, c'est un renseignement géographique, évidemment, que l'on obtient. Oui. Et je l'ai parcouru, soit en longeant les routes, soit au point de vue navigation, parce que c'est un cours d'eau qui traverse un ensemble de jolis paysages, partir de l'Auvergne et finir au pays des dernières vignes, là-bas, c'est un peu différent. Alors, là, je l'ai suivi. En voiture avec quelques personnes ou moi-même allongeant avec les routes, et puis un beau jour, j'avais des amis de Libourne qui venaient à Carennac passer les vacances dans mon village natal. J'étais à ce moment-là un jeune homme, j'avais une... Quand je suis allé, je devais avoir 23 ou 24 ans. J'avais un petit bateau, parce qu'à Carennac, j'allais à la pêche au bord de la Dordogne. Et la Dordogne était un grand cours d'eau avec un magnifique peuplement de poissons. Alors le peuplement de poissons, c'est une affaire de biologie, d'histoire naturelle. Et là, ses amis, qui étaient de Libourne, avaient, eux étant des gros négociants en vin, venaient passer des vacances à Carennac avec le vélo, car c'était des sportifs. Ils rôdaient dans toute la région pour vendre le vin, le bénéfice leur payait les vacances, et ils partaient en canoë pour repartir. Moi, j'avais une petite barque, large 68 ou 10 cm comme ça, 4 mètres de long, même pas 3,60 m de long, en planche de 1 cm. Et cette périssoire qui me servait à pêcher, là, je m'en suis servi. Et je suis parti avec eux quand ils sont partis. J'ai descendu la Dordogne depuis Carennac jusqu'à Libourne.
Bravo.
Eh oui.
Bravo.
Parce que c'était une affaire qui... pour moi, n'était pas sportive, c'était une affaire simple. Et alors, la Dordogne traverse des beaux pays, des falaises, de la plaine, etc. Et c'était une affaire intéressante. Quand nous arrivions dans un village, car les villages ou les bourgs du bord de la Dordogne avaient toujours un accueil, même avant. Et oui, et j'ai connu là les premières descentes en canoë. Parce que mes deux amis que j'avais, oh, Christian était un homme qui devait peser 77 ou 18 kilos. Et oui, et Daniel, pas bien différent. C'était des grands sportifs du club nautique de Libourne. Ah, des types qui avaient... Bon, alors, c'était des gens, ils venaient là... Et je suis descendu jusque chez eux, à Libourne, avec la périssoire, où je suis allé tout simplement avec eux, dans leur famille. J'y suis resté 3 jours.
Ah oui.
Et quand je suis revenu, eh bien, ils m'ont porté à la gare mon petit bateau, car le bateau était venu, et on l'a réexpédié à Puybrun, et je suis allé le chercher de Puybrun. Bon, la Dordogne a été pour moi une des grandes activités de ma jeunesse. Et j'allais à la pêche, bien sûr, j'ai été pêcheur. On pêchait à la ligne, on pêchait avec les engins, on pêchait... J'ai eu pendant toute ma vie un permis de pêche aux engins. Je payais, mais j'allais pêcher. Alors j'avais des filets de pêche, et je pêchais à la ligne, et j'avais le bateau... Eh oui, alors, j'ai eu une grosse activité qui m'a permis en même temps de connaître la nature qui est là. Car, au point de vue botanique, un grand nombre de plantes vont se trouver fréquentes ou même en grand nombre dans une zone voisine de l'eau ou au bord de l'eau, alors qu'on ne les trouve pas à quelques centaines de mètres de là.
Tout à fait.
Il y a les plantes qui, elles, font un ensemble d'études botaniques que l'on peut faire. J'ai été botaniste avec mon ami Monteil, faisait de la botanique, des journées entières, et aller se déplacer en Auvergne ou ailleurs pour étudier la végétation. Et alors, il y a ça, et la Dordogne donne aussi d'autres renseignements parce que l'eau attire des animaux, et ces animaux, ce sont des oiseaux qui y vivent ou qui y passent, ce sont des animaux autres qui sont là, comme par exemple une loutre. Une loutre, et oui, comme les certains renards qui sont habitués à vivre au bord de l'eau pour attraper. Et alors, il y a tout un tas de connaissances qui ont été faites. La Dordogne, si vous voulez, c'est un centre culturel dans lequel on peut retrouver des renseignements. J'ai été passionné de la Dordogne. Et il y avait, et il y a toujours, l'activité humaine. L'activité humaine, c'est tout simplement l'installation primitive et ancienne des groupes d'habitation sur une rive ou sur l'autre. À une certaine distance, il y avait des groupes d'habitation qui ont formé des villages. Et nous avons les petits villages, les bourgs, qui ont été au bord de la Dordogne. La raison en est simple, c'est que le bord de la Dordogne offrait des possibilités d'existence dans la nature mieux que là où on n'avait pas de cours d'eau. L'eau a été un élément de civilisation. Alors là, ces cours d'eau, le cours d'eau plutôt, donnait des possibilités. Et alors, ces villages-là qui étaient là ont été le centre, de, je dirais, culturel de toute la région. De telle sorte qu'au bord des villages, il y avait ça. Et la navigation, car pour circuler dans un pays, il était difficile de traverser un grand cours d'eau. Alors, à peu près partout, on avait la possibilité de remonter le long d'une berge et de l'autre côté, de l'autre berge. Il y avait partout quelques vieux chemins, quelques sentiers, quelques passages possibles, mais à certains endroits, il fallait bien, pour des raisons, je dirais, commerciales ou autres, passer d'un côté à l'autre. Alors, où on s'arrêtait à un village où il y avait quelqu'un qui pouvait, avec une barque, vous traverser, ou bien c'était un grand chemin qui pouvait être en dehors d'un village et où il fallait faire un passage. Les passages, ça avait été les bacs. Un bac avec un câble de chaque côté, etc. C'était un bac. Ou bien, ça a été, quand on a eu la possibilité de les construire et qu'on y a su, des grands ponts de maçonnerie, des ponts de pierre. Et puis, quand la technique l'a permis, des ponts plus légers, les ponts suspendus. Alors, il y a eu un peu partout, tout le long, là. Et il y avait, chez nous, des ponts à Beaulieu, il y avait des ponts construits. Après Beaulieu, il y a eu des bacs. À plusieurs reprises, il y a eu des bacs. À Gentrac, il y a eu un bac. À Florac, il y avait eu un bac. Il y avait eu un bac ici. Tous les 12 ou 15 kilomètres, quelquefois un peu moins, on trouvait un bac. Et puis, il y a eu les ponts, qui ont été d'abord des ponts de pierre, mais une grande ville comme Souillac, ou ailleurs, mais pas ailleurs. Et quand on a pu faire des ponts suspendus, on en avait mis à divers endroits. Il y en avait un à Carennac, il y en avait un à Florac, là, et il y en avait entre sur la route nationale maintenant, et puis tout ça. Et ces ponts suspendus rendaient de grands services, mais quand ils ont été construits, c'était pour porter un cheval, la charrette et le chargement d'un cheval ou d'une paire de bœufs, pas pour des grands poids. Quand sont arrivées les premières autos, elles n'étaient pas bien fortes, pas bien portantes, la vibration faisait que ça tenait bien, mais déjà, au point de vue militaire, là où une troupe devait passer sur un pont suspendu, on interrompait la marche au pas, car la marche au pas faisait une cadence au tablier qui risquait de le faire effondrer. Alors, il y a eu des effondrements de ponts suspendus. Un à Carennac, en 1900, je ne peux pas vous préciser exactement, je ne me souviens pas, vers 1800, 1900 à peu près. J'en ai entendu parler suffisamment, j'ai très bien connu les gens, et j'avais même le père d'un de mes amis qui avait été parmi les sauveteurs parce que c'était un pêcheur qui avait assisté à l'effondrement une paire de bœufs et la charrette qui avait fait tourner le tablier du pont, les tirants avaient craqué, le tablier s'était ouvert et tout ça s'était tombé en bas. Alors, les bœufs qui étaient attelés ont réussi à eux marcher parce que c'était pas très très profond, ils ont réussi à faire, les bœufs ne sont pas morts, mais le bonhomme qui avait été éjecté, lui, il a été rattrapé par ça, il n'était pas mort, mais en fait c'était un accident dont on parlait. Et il y avait aussi, tout le long de la Dordogne, l'utilisation de l'eau comme matière énergique pour faire tourner les moulins. Alors, partout où il y avait des dénivellations ou autre, on a essayé d'utiliser l'eau pour canaliser un peu, organiser une chute qui était quelquefois entre 1,50 m et 1,80 m, guère plus, une chute qui permettait de faire tourner une roue à aube et de faire un moulin. Alors, nous avions sur la Dordogne, tous les 7, 8, 5, 4, ça dépendait, un petit barrage qu'on avait fait pour amener l'eau vers un moulin. Et là, ce sont, avec le temps, des détails de début de navigation qui se sont améliorés. Et au fur et à mesure des possibilités de construction, on avait fait des digues, c'est-à-dire des chaussées qui faisaient une hauteur haute, la hauteur de la porte, à guère plus. Ça retenait sur 1,80 m à 2,50 m, ça retenait de l'eau. Ça faisait en amont une grande masse d'eau qui était ralentie parce que la pente moyenne de la Dordogne dans notre région ne dépasse pas 50 ou 60 cm par kilomètre. De telle sorte que on retenait de l'eau sur plusieurs kilomètres de long. Et on avait là une masse d'eau qui permet de faire tourner les moulins, même en temps de sécheresse, parce que ces digues étaient plus ou moins barrées avec du feuillage, de la verdure, pour que en été, le moulin soit quand même alimenté. Et alors, ça faisait des difficultés de navigation, car toujours, l'eau avait été un mouvement d'aller et de retour entre la basse vallée et la hauteur et la montagne, et il y avait aussi le fait que dans la plupart des régions, la navigation lointaine s'était faite sur la Dordogne. Et de là étaient nés des grands bateaux, des gabarres, qui prenaient d'Auvergne ou de la haute montagne des bois pour les piquer, les échalas pour les vignes bordelaises, des piquets, pour, en plus des échalas pour les vignes, qui prenaient des bois de tonnellerie pour faire des fûts, des tonneaux, et il y avait eu, avant ces grandes digues, il y avait eu la navigation où des troncs d'arbres plus ou moins attachés formaient une nappe de flottaison. Mais la nappe de flottaison sur la Dordogne ne jouait pas du temps de ma jeunesse, ni même du temps de la jeunesse de mon père. Il n'y avait pas de flottaison. Il pouvait y avoir quelque chose, mais c'était tout. Et alors là, c'était des grandes barques qui partaient en général de Spontour ou un peu plus en aval d'Argentat. Et alors là, chacune de ces barques portait en gros trois hommes, un bonhomme qui tenait le gouvernail et deux qui, avec une perche là, allaient pouvoir, étant sur le chargement, botter. Alors, il y avait une grande barque, un plateau sur lequel se trouvaient les produits qu'on emportait. Les produits qu'on emportait, c'était des échalas, des piquets pour les vignes, empaquetés tout simplement, ou des piquets préparés pour planter, pour tenir des rangées de fil de fer, ou bien porter des peaux d'animaux, car dans ces régions d'élevage, on tuait des animaux, les peaux de bœufs et de vaches pouvaient être expédiées par la Dordogne pour descendre, quitter ces régions montagneuses et venir dans le bas pays. Il y avait à Souillac et à Naval des tanneries qui allaient recevoir ces choses-là. Il y a eu aussi, plus bas, non pas ici, mais à partir de Souillac, en descendant, il y avait quelque peu d'exportation de vin. Il y avait quelque peu d'exportation de vin, avant d'arriver dans le Bordelais. Et il y avait autre chose. C'est que, dans notre région ici d'Écosse, il y avait de l'élevage, on fabriquait des fromages, qui partaient aussi, et des galopins, des gosses, des autres, qui allaient ramasser des graines de genévrier qui allaient partir. Et comme c'était des petites affaires commerciales qui n'étaient plus le grand trafic, en plus des grandes gabarres, il y avait certaines barques qui partaient en emportant pour un bonhomme ou deux, en emportant de ces petites choses qu'ils allaient vendre à 150 ou 200 kilomètres plus bas. C'était des barques assez légères, ils vendaient ce qu'ils avaient porté et ils vendaient la barque. Et alors ces types-là revenaient d'expédition en remontant la Dordogne à pied. De telle sorte que, à pied, ils ne pouvaient pas faire un très grand parcours, mais ils longeaient ou la rive droite ou la rive gauche, suivant les possibilités, mais ils trouvaient partout des auberges pour loger. Alors, il y avait les auberges le long de la Dordogne qui fonctionnaient, parce qu'il y avait là toujours quelques familles pour l'élevage. Il y avait le poisson, et alors, quand on avait de la viande et le reste, les récoltes agricoles dans la vallée, il y avait facilement de la... Et la Dordogne a été un couloir d'activité humaine sur quelques kilomètres, 2 ou 3 kilomètres, à droite ou à gauche, et guère plus. Et alors, là, ces barrages qui étaient importants possédaient un passage pour la navigation. Quand on descendait, on ne pouvait pas se heurter là, et il y avait une chute à faire. La chute n'était pas grande, c'était 2 mètres de chute, mais 2 mètres de chute, ça fait plonger un bateau, c'était toute une affaire. Alors là, ces barrages avaient eu officiellement une largeur qui avait été réglée par la loi, et là, les barques qui menaient là ne dépassaient pas une largeur telle qu'on ne puisse pas passer sans difficulté. C'était ça. Et je sais, je ne peux pas vous citer des chiffres parce que ma mémoire date, qu'il y a à peu près, oh, c'était au milieu du siècle dernier, il y a eu à Gluges et à un autre endroit sur la Dordogne la nécessité d'élargir le passage des barques parce qu'il y avait eu de temps en temps des accidents trop graves et alors on avait obligé le bonhomme qui entretenait la digue d'élargir le passage. Ce passage, on l'appelait le pertuis. Un pertuis, c'est un passage, mais dans le pays, ici, on l'appelait le pas du roi. Parce que la navigation ancienne faisait que le roi se déplaçait quelquefois sur des grands cours d'eau, car un roi, au point de vue historique, on en parle, mais un roi n'était pas un individu immobile. Il circulait, etc. Ça ne faisait pas une promenade de 15 jours de déplacement du roi avec un certain nombre de gens, n'était pas un événement historique. Mais alors, si le roi se déplaçait quelque part, ou un très grand seigneur, il fallait que la navigation permette de passage. Comme on n'avait pas de route, car les routes, c'est une affaire récente. Nous avons ici à Floirac un vieux chemin où personne ne passe parce qu'on ne peut pas passer, qui est porté sur le cadastre, chemin de grande communication de Bergerac à Aurillac. Le chemin de grande communication est presque impossible à suivre à pied. On ne passait que avec quelques animaux, un cheval, à cheval, avec un cheval on peut passer partout, ou à pied. Pas de char pour pouvoir faire un parcours. Il n'y avait que la Dordogne qui allait communiquer entre Sarlat et Aurillac, et la région d'Aurillac, car la Dordogne ne passait pas à Aurillac. Et bien, il n'y avait que ça. Ça a été là. Et oui. Quant aux accidents, eh bien, il y avait les dangers pour les gosses dans les villages qui sont au bord de l'eau. J'ai connu des noyades d'enfants. 2. Il y a eu la noyade de jeunes gens ou d'hommes, de jeunes hommes qui n'étaient pas assez bons nageurs ou d'autres, et qui allait commettre une imprudence dans un endroit trop dangereux, car il y avait des endroits dangereux, trop profonds, ou des buttes de courant contre un rocher, on pouvait être assommé par le courant qui venait vous faire cogner dans un rocher. Et alors, là, il y a eu quelques accidents, et tant que la navigation sur la Dordogne n'était pas venue, il y avait les transports commerciaux, et c'était tout, les baignades. Mais il est venu, à l'époque actuelle, la navigation sur des bateaux légers, des kayaks, des hugues, alors les pagaies et tout le fourbi. Et alors, il y a eu pas mal d'accidents que j'ai connus parce que ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes qui étaient à Paris, qui travaillait dans l'industrie, qui était ailleurs, qui était né à la campagne ailleurs, qui avait appris à nager parce qu'ils allaient nager à Paris ou à Anneville, il y a partout des endroits où on peut aller prendre des bains et il y a des piscines. Et apprendre à nager dans une piscine et se trouver tombé dans la Dordogne, dans un endroit dangereux, ce n'est pas la même chose. Pas tout à fait. Et alors, nous avons eu quelques accidents. À Gluges, ici, je me souviens, deux fois, depuis que j'étais à Florac, moi, deux fois, il y a eu des accidents très graves. Et une fois, c'était un couple anglais, un homme et une femme d'Angleterre, qui se sont accrochés là-bas. Ça a été, on a réussi, on en a récupéré un, l'autre était mort, et puis c'est tout. Et il y a eu des imprudences faites par des gens du cru auxquels on n'avait pas donné quelques renseignements. C'est-à-dire que si la Dordogne est assez chaude, on va se baigner, ça va bien. Mais si on n'est pas dans un état physique suffisant, on peut avoir un sale coup. Et en particulier si on n'a pas fait la digestion. Oui. Et alors, nous avons des gens, et malheureusement, j'ai connu deux morts, moi, un de mes anciens élèves, qui s'est trouvé tout simplement de venir un dimanche après-midi. Ils sont venus danser à Gluges. Ils étaient de la région de Brancelles. Ils sont venus danser à Gluges. Quatre jeunes gens, c'était l'après-midi, ils avaient peut-être déjeuné au restaurant, ils avaient bu un coup, enfin, ils venaient à Gluges. Il y a un endroit qui est profond et dangereux, mais qui n'a pas l'aspect d'être dangereux. Il y a des gens qui s'y baignent quelquefois. Quelques-uns étaient-ils venus avant, je ne sais pas. En tous les cas, ils se sont mis tous à la flotte. Et un instant de rien du tout, il n'y avait plus que trois qui barbotaient. Ils nageaient, mais pas suffisamment. Et alors, il y en a un qui a disparu. Il a fallu le repêcher. On a repêché un individu à Gluges. Il s'était noyé, tout simplement. Et oui, un autre que j'ai connu à Gentrac, un de mes élèves, eh bien, était allé un dimanche après-midi, après avoir mangé et trop mangé et bu un bon coup avec des copains, ils sont allés se baigner, et puis il a coulé, et puis... Alors, quand c'était ça, c'était pas une noyade ordinaire. C'était une sorte de congestion brutale. Eh oui. Alors, le médecin, parce que j'ai vu des médecins à ce sujet, j'ai été assisté quelquefois au repêchage de faire respirer un bonhomme. Ils appellent ça une hydrocution.
C'est ça.
Cette hydrocution, c'est un choc nerveux qui arrête la respiration. Et alors, on se noie. Et oui. Et alors, le long de la Dordogne, eh bien, il y a des événements qui sont des accidents, qui sont, etc. Mais elle amène la richesse, elle a amené une beauté dans les paysages, elle a amené ça, et c'est quelque chose qui est vivant, qui est attachant. Moi, j'y ai navigué, je l'ai toute suivie, j'ai fait souvent les parcours suivants. J'avais une barque légère, évidemment. Je la prenais sous le bras et puis je pouvais la déplacer par une centaine de mètres. Il m'était arrivé avant la guerre. J'avais fini ma classe à Florac à 4 heures de l'après-midi, à la belle saison, après ça. Eh bien, je prenais ma périssoire en bas du bourg, je remontais à Calennac. Je faisais les 9 km de remontée de la Dordogne, je passais la soirée dans ma famille et le lendemain, je restais avec ma famille et c'était un jour de semaine, le lendemain matin, eh bien, je revenais faire la classe, mais si j'étais parti un samedi, le dimanche matin, nous avions quelquefois un travail que nous pouvions faire. Je passais une journée à aider mes parents à faire quelque chose. Et oui, j'ai navigué sur la Dordogne. Quand